1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Nous ouvrons aujourd'hui le quatrième et dernier volet sur la vie de Martin Luther, avec vous Éric de Nimal. Et si nous nous arrêtons sur la vie de ce réformateur allemand, c'est parce que tout au long de l'année 2017, des commémorations marquent le 500e anniversaire de l'affichage des thèses qui ébranlent l'Église de son temps et marquent le début d'une fracture avec Rome. C'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent. Suite aux prises de position de Martin Luther, le pape Léon X excommunie celui qui conteste l'autorité du pape et la vente des indulgences.
Ce que Luther refuse surtout, c'est que l'on puisse mettre l'autorité du pape au-dessus de la Bible. Quant à la vente des indulgences, ces lettres qui effacent les fautes des vivants et des morts sont vraiment ce qui a mis le feu aux poudres. Dans un premier temps, Luther ne conteste pas vraiment la doctrine des indulgences, mais il est contre le trafic qui est mêlé à cette vente et à la pression exercée sur les croyants crédules. Pour lui, le salut est gratuit. Et s'il s'indigne contre cette façon de monnayer la grâce de Dieu, c'est parce qu'il a le sentiment que le pape est complètement à côté de ses pompes, si j'ose dire. Et surtout, il sait que le pape veut remplir ses caisses, des caisses qu'il vide en construisant la basilique Saint-Pierre à Rome.
Luther est donc officiellement excommunié de l'Église catholique romaine. Le pape envoie en Allemagne un diplomate pour arrêter le moine défroqué et le livrer à Rome. Mais l'envoyé spécial revient bredouille. Il n'est pas parvenu à mettre la main sur l'hérétique.
Et non, il revient bredouille et catastrophé. Il témoigne, pour un partisan du pape, on compte en Allemagne désormais 3 adversaires. Luther est donc mis au banc de l'Empire. Cependant, il est largement soutenu par la population faite de gens humbles, comme du milieu d'où il vient lui-même, mais aussi il est soutenu par les princes et les gens de la noblesse allemande.
Comment comprendre cette popularité ?
Eh bien, je crois qu'il faut se souvenir que l'Allemagne d'alors souffre de dénigrement de la part des autres nations européennes, notamment de la France, de l'Angleterre et de l'Italie. Elle n'est pas très heureuse du nouvel empereur Charles Quint, lequel domine sur un empire qui va des Pays-Bas à l'Espagne. C'est un titre que François Ier a essayé d'avoir, mais le roi de France n'y a pas mis assez d'argent. Charles Quint est aussi très proche du pape. Le fait qu'un jeune Allemand tienne tête à la puissante Église romaine catholique et ne se laisse pas impressionner par Charles Quint ne peut que flatter l'honneur national des Germains. On le sait, les Teutons, si j'ose dire, les Teutons sont un peuple fier et ne supportent pas les humiliations, on l'a vu d'ailleurs avec la suite de l'histoire. Et très certainement, à son corps défendant, Luther est devenu un héros, un leader de l'identité nationale allemande.
Cependant, il est en danger de mort puisque la personne qui est excommuniée par l'Église est une personne que l'on peut assassiner sans être accusé.
Et oui, il est menacé par certains, mais il est une figure très précieuse pour d'autres. Et c'est la raison pour laquelle le fidèle protecteur de Luther, le prince Frédéric III de Saxe, va le faire enlever et le mettre à l'abri dans un de ses châteaux près d'Eisenach. Et là, Luther prend une nouvelle identité. Il n'est plus le frère Martin, mais le chevalier Georges. À son fidèle ami Spalatin, il donne des nouvelles en ces termes. « J'ai finalement quitté ma robe de moine et j'ai revêtu le costume de chevalier. Je laisse croître mes cheveux et ma barbe. Tu me reconnaîtrais à peine, car moi-même, depuis longtemps, je ne me reconnais plus. » Luther a donc troqué sa cellule pour une chambre qui appartient au corps de logis des chevaliers. Il a désormais 2 fenêtres, c'est 2 fois plus de lumière qu'il n'en avait au couvent. Il va y vivre anonymement, au moins pendant une année, durant laquelle il travaille, et il travaille à la rédaction de plusieurs ouvrages. Il se lance aussi dans la traduction du Nouveau Testament en allemand. Et puis depuis sa chambre de reclus, il écrit de très nombreuses lettres qu'il date en précisant de mon désert, de mon ermitage, de la région des airs. Il travaille beaucoup, mais il est aussi victime de dépression.
On a longtemps montré aux touristes la chambre de Luther avec une fameuse tache d'encre contre le mur. Une tache qui a une histoire, à moins que ce ne soit une légende.
Ce qui n'est pas une légende, c'est que Luther revit des mois et des mois de tourmente, comme il en a vécu quelques années plus tôt. Il écrit à cette époque ce qu'il ressent. « Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai aucun repos, je souffre si cruellement que je désespère de guérir ». Parfois, il se réveille en sueur, paniquant au moindre bruit suspect. Ce ne sont pas les soldats de l'empereur ou les envoyés du pape qu'il craint, mais les puissances occultes, maléfiques, voire diaboliques. Et c'est là qu'intervient effectivement l'anecdote dont vous parliez. Un jour qu'il pense être tourmenté par le diable en personne et qu'il croit le voir ricanant au-dessus de lui, au-dessus de son pupitre, il lui lance son encrier, d'où la tâche.
Éric de Nimal, vous disiez que Luther se met à traduire la Bible en allemand. Quelques années plus tard, les protestants de France travailleront aussi à traduire la Bible en français. Calvin, par ses écrits en français, va forger la langue. Luther ne remplit-il pas ce même rôle de l'autre côté du Rhin ?
Le parallèle existe, en effet. Lorsque Luther traduit la Bible du latin à l'allemand, il faut dire que la langue allemande écrite n'existe pas vraiment. Luther choisit alors le langage employé par les chancelleries pour trouver les mots dont il a besoin, et il peaufine ces mots, il forge des expressions, il invente même une grammaire. Et c'est vrai, ce que Wycliffe, un pré-réformateur, a fait pour l'Angleterre, ce que Jean Hus a fait pour la Bohème, ce que Calvin fera bientôt pour la France, Luther est en train de le faire pour l'Allemagne. C'est un fait souvent méconnu, mais il est exact que les réformateurs, s'ils ont bousculé la compréhension de la Bible en abandonnant le latin, ont aussi façonné les langues modernes.
On entend là l'auteur que vous êtes, Éric de Nimal, avec Le protestantisme pour les nuls, livre dans lequel vous racontez toute cette histoire depuis les pré-réformateurs jusqu'à aujourd'hui. Si nous revenons maintenant à notre Martin Luther, nous sommes dans les années 1520 et personne ne sait où il est passé.
De toute l'Allemagne monte une colère contre Rome et contre le pape. Les partisans de Luther ne savent pas où il est, effectivement, ni ce qu'il devient. On voit bien des textes de lui qui paraissent, lesquels enflamment de plus en plus les populations, mais on le voudrait ailleurs que dans un repère. Et commencent les déformations de toutes sortes, et si, jusqu'alors, Luther craignait ses ennemis, désormais il prend peur de l'attitude de ses partisans, qui, au-delà de la réforme de l'Église, sont en train de transformer cet élan en révolte politique.
Les disciples vont souvent plus loin que les maîtres qui les inspirent.
Exactement, et du coup Luther décide de sortir de sa cachette pour reprendre les rênes et canaliser les espoirs autant que les revendications. Son prince protecteur craint pour lui, mais Luther est plus que jamais déterminé. Il sait qu'il est temps de s'exposer, même si les risques sont grands. Il revient au monastère de Wittenberg, et de là, il poursuit son œuvre qui passe désormais par l'organisation du mouvement qu'il a suscité. Les clans se forment entre catholiques et luthériens, même si le terme de luthérien n'existe pas encore. Face aux pressions de plus en plus déstabilisantes pour l'unité nationale, en 1526 est convoquée une nouvelle assemblée générale des régions, ce qu'on appelle une diète. Celle-là aura lieu à Spire. Et là, lorsque les princes allemands sont là, ils doivent déterminer leur choix religieux. Cette proposition est une petite victoire en quelque sorte, d'autant qu'elle donne une nouvelle liberté aux pensées et aux positions de Luther. Commencent à naître des communautés chrétiennes en rupture avec Rome et qui se réclament de Luther. Et 3 ans plus tard, lors d'une nouvelle diète, l'empereur Charles Quint veut supprimer cette liberté religieuse et il cherche à ramener tout le monde sous le giron de l'Église catholique romaine. Les princes s'opposent et protestent. Nous protestons devant Dieu, notre unique créateur, conservateur, rédempteur et sauveur, et qui un jour sera notre juge, ainsi que devant tous les hommes et toutes les créatures, que nous ne consentons ni n'adhérons d'aucune manière pour nous et pour les nôtres aux décrets proposés dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte parole et à notre bonne conscience au salut de nos âmes. Cette déclaration est un camouflet pour Charles Quint, un croque-en-jambe pour l'Église catholique romaine, et elle aura un retentissement dans toute l'Europe. Dès lors, les princes allemands, gagnés aux idées de la réforme de Luther, sont appelés les protestants.
Le mouvement est en marche et il faut maintenant lui donner des bases et des références. Bien sûr, la Bible sera cette référence unique, mais il faut sans doute aussi clarifier les différences entre les catholiques et désormais les luthériens.
Tout à fait, et c'est là qu'entre en scène de façon plus précise un ami de Luther, Philippe Mélenchon. Nous sommes en 1530, nouvelle diète, et cette fois à Augsbourg. Mélenchon propose une confession de foi sur laquelle il a beaucoup travaillé. Ce texte deviendra une déclaration incontournable du luthéranisme mondial, la confession d'Augsbourg. Et en 28 articles, plus ou moins longs, sont abordés les points de discussion les plus importants et qui marquent les clivages entre catholiques et protestants.
Sur quoi portent particulièrement ces articles ?
Alors, il y a une première série de textes qui traitent des éléments fondamentaux de la foi et de la doctrine, comme Dieu, le Fils de Dieu, le péché originel, le baptême, la scène, le libre arbitre, l'invocation des saints. Et puis, il y a une deuxième partie de cette confession de foi qui concerne les sujets qui fâchent. Le mariage des prêtres, la messe, les lieux monastiques, les pouvoirs des évêques, etc. Pour le moment, certains sujets sont encore mis de côté par le diplomate Mélenchon. Ainsi, ne parle-t-on pas encore dans ces textes des indulgences, de l'autorité du pape ou du purgatoire ?
Je reviens un peu en arrière. En 1525, Luther se marie. Mm-hmm. Il se marie avec une ancienne religieuse qui, elle aussi, est sortie du couvent.
Elle avait été placée dans un couvent de bénédictines à l'âge de 16 ans, à la mort de sa mère. Et elle s'enfuit, avec d'autres, de ce couvent où les idées réformatrices font des ravages, en quelque sorte. Elle a alors 24 ans. 2 ans plus tard, elle épouse Martin Luther, qui est 2 fois plus âgé qu'elle. De cette union vont naître 6 enfants, mais plusieurs de ces enfants vont mourir en bas âge.
Le succès de Luther continue et il rend un grand service à la chrétienté allemande lorsqu'en 1532, on publie la Bible qu'il a traduit dans cette langue.
Oui, Luther travaille beaucoup et il signe de très nombreux textes. Naturellement, la traduction de la Bible en allemand est un énorme chantier, mais Luther écrit aussi plusieurs commentaires sur des livres importants de la Bible. En tout, il a publié plus de 400 textes qui sont déterminants pour forger la théologie luthérienne. À la fin de sa vie, Luther n'a plus aucun respect pour le pape et pour ce qu'il représente. Alors qu'il espérait encore quelques changements chez Léon X, il sait qu'il n'y a plus rien à attendre du nouveau pape qui s'appelle Paul III. Il le traite même de pape sodomite, ce qui n'est pas très gentil, fondateur et maître de tous les péchés. En 1536, Paul III convoque un concile et encourage la création de la Compagnie de Jésus, plus connue sous le vocable de jésuites, dont la mission est de lutter contre les réformes protestantes qui gagnent toute l'Europe. Martin Luther répond au pape avec une formule dont il a le secret, mi-latine, mi-germanique, et qu'il est difficile de traduire en français, mais en substance cela donne ce propos plutôt laconique et trivial, je te dis le mot de Cambronne. Nous sommes au siècle de Rabelais, il ne faut pas l'oublier. Et finalement, Luther va mourir en février 1546, il a 62 ans.
C'est sur cette dernière note qui marque bien le fossé creusé entre le catholicisme romain et le luthéranisme que nous allons nous séparer. Nous étions avec ce 16e siècle au cœur de la Renaissance et de la Réforme. Merci Éric de Nimal pour ce parcours historique.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions, 500 ans de réforme, protestants 2017, vivre la fraternité.